Donc, merci beaucoup. Bienvenue à tous. Et tout d'abord, je vais prendre les questions écrites que j'ai reçues. Et la première question est la suivante. Elle est de Marlou. Ce chapitre 8 couvre tant de choses, il y a tant à apprendre et à quoi s'entraîner. Comme vous le dites, il faut le faire étape par étape. Les stances traitent toutes sortes de comportements émotionnels et d'habitudes, d'états mentaux, et en quoi toutes ces choses peuvent perturber la méditation, comme un fort attachement ou une forte aversion, le désir ou la haine. Et elles offrent ainsi de la nourriture pour notre méditation analytique. Tout en écoutant et en traversant tout ce processus, j'ai découvert beaucoup de choses me concernant, des bonnes et des mauvaises, et je suis, pour ainsi dire, tombée en mille morceaux. Et maintenant, je commence à retrouver mes bases. La véritable pratique et la vraie étude est être passé plus de temps en solitude. Je l'accepte, la solitude, mais quand on interagit avec les autres, on découvre aussi plus de choses sur soi-même. Donc on a aussi besoin de nos compagnons, les êtres sensibles, tout autant que du dharma sacré, pour découvrir sur notre esprit est-ce qu'il n'en est pas ainsi. Les autres nous donnent, nous font comme un miroir pour savoir si on est bien ou si on n'est pas bien, est-ce que c'est bien le cas. Et donc Rinpoche répond. Rinpoche dit si il y a des gens autour de vous, s'il y a beaucoup de gens, ou en tout cas s'il y a des personnes autour de vous. Bien sûr, ça vous donne beaucoup d'opportunités de pratiquer beaucoup de choses avec eux et aussi de pouvoir apprendre beaucoup de choses de ces personnes. Mais si vous êtes seul, alors également, alors je pense qu'il y a également beaucoup de défis à relever quand vous êtes seul et que quand vous êtes seul, il y a aussi, ça offre aussi beaucoup d'opportunités d'apprendre de vous-même. Parce que, en fait, fondamentalement, c'est votre esprit qu'il s'agit de regarder et on peut en apprendre beaucoup de cette observation. Donc, en fait, je pense que ça n'a pas tant d'importance que ça qu'il y ait d'autres personnes ou pas, quand le but c'est d'apprendre par soi-même et sur soi-même. En fait, on peut apprendre n'importe où, n'importe comment. En fait, dès lors qu'on veut apprendre, dès lors que l'on pratique, alors c'est sur soi-même que porte la pratique. En fait, votre pratique, personne d'autre peut la faire à votre place. Et donc, je pense que tout ça, c'est à vous de voir, au bout du compte. Puis, la question suivante est de Max. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, expliquer les choses concernant le roi Guessard de Ligne, qui il est? Quelles sont ses activités? Pourquoi il est important? Est-ce qu'il y a un mantra de Guessard de Ligne? Est-ce que si oui, vous pourriez donner le mantra? Parce que j'aimerais me connecter avec ce roi en récitant son mantra. Ou s'il y a des prières courtes ou des prières de requête peut-être. Peut-être que je pourrais vous faire la requête de donner la transmission par la lecture de ce mantra de Guessard ou de n'importe quelle autre prière de Guessard. Dont vous estimeriez approprié. En fait, il y a beaucoup de choses concernant ce roi, Guessard de Ligne. Donc ce roi, Guessard de Ligne, il est né à peu près à la même époque que Milarepa. Donc, d'après certains textes historiques, Milarepa, Guessard de Ligne et Mathieu Labdrun sont nés à peu près à un an d'intervalle. Le plus âgé étant Milarepa, puis Guessard de Ligne, puis Mathieu Labdrun encore un an après. Donc c'était à peu près à cette même époque. Donc c'était à cette époque à laquelle les rois du Tibet et l'empire du Tibet tombaient en morceaux. Et donc le Tibet s'est pour ainsi dire fragmenté en beaucoup de seigneuries. Et donc je pense que Guessard c'était à l'est du Tibet. Donc, en fait, il est né très près de l'endroit d'où je viens, ce roi. Mais il y a beaucoup de légendes le concernant. Et sa vie, enfin, le récit de sa vie est considéré comme le récit épique le plus long au monde, parce que les livres qui retracent ce récit, cette épopée, on dit que ça constitue quelque chose comme 300 volumes de nos jours. Donc c'est vraiment énorme, c'est long, il y a beaucoup d'histoires. Mais ces histoires sont racontées et c'est un peu étrange. Et je pense que c'est quelque chose de tout à fait unique en son genre. Donc ce sont des bardes qui raconte cette histoire, mais il les raconte juste comme ça. Ça se produit naturellement. Et il y en a qui pouvaient, parmi les gens qui racontaient, il y en avait qui savaient ni lire ni écrire, mais qui pourtant pouvaient réciter des histoires sur plusieurs volumes, et d'une manière très poétique, et puis avec toutes sortes de conversations. En vers. Donc il y a des dialogues en vers, alors que l'histoire principale est récitée en prose, dans un langage très élaboré, alors que c'est des gens qui savaient a priori ni lire ni écrire qui le racontaient. Donc Guessard de Ligne lui-même n'a pas eu d'enfant, mais son frère en a eu, et donc cette lignée est toujours là, en fait. C'est la lignée du roi auquel je suis rattaché. Et ce roi, Guessard de Ligne, était considéré comme un protecteur, comme une émanation de Guru Padmasambhava. Et donc, beaucoup de Tibétains le considèrent comme un protecteur du Dharma. Et donc, ils font des pratiques le concernant. Bien sûr qu'il y a beaucoup de prières de toute longueur à lui, le concernant. Je pourrais vous en donner si vous souhaitez, mais je ne sais pas si c'est nécessaire. Bien sûr qu'il y a des mantras, il y en a quelques-uns. Et l'un de ces mantras. J'ai pas réussi à répéter le mantra que Rinpoche a récité, mais je vous conseille d'écouter sur la vidéo en anglais. Mais Rinpoche explique que en vous récitant ce mantra, j'ai fait une transmission un lung. Je pense que je vais pas passer trop de temps là-dessus aujourd'hui. On va passer à la question suivante de John. Pourriez-vous, s'il vous plaît, considérer les histoires du Bodhisattva, capitaine d'un bateau dans les Jataka, et l'histoire du multi-meurtrier Angulimala. Que nous enseignent ces histoires concernant différentes approches pour réduire la nuisance dans le monde? En fait, explique Rinpoche, l'histoire des Jataka. On peut dire que je ne sais pas si cette histoire du capitaine, il était vraiment le capitaine, mais c'est l'histoire d'un commerçant qui a tué une personne. Parce qu'il savait que cette personne voulait en tuer plein d'autres. En fait, cette histoire, elle parle, elle veut illustrer l'importance de la motivation, de notre motivation. C'est de ça que parle cette histoire. Parfois, des actions qui ont l'air négatives peuvent aussi s'avérer être extrêmement positives. Parfois, des actions qui ont l'air positives peuvent s'avérer en fait très négatives. Donc, tout ça dépend beaucoup de la motivation de la personne qui fait ses actions. Parce que dans cette histoire, le bodhisattva de l'époque a tué cet homme parce qu'il avait vu que cet homme était sur le point de tuer le capitaine du bateau et tous les autres occupants du bateau, et pour leur dérober leurs biens et de prendre le contrôle du bateau. Et que donc, en faisant ça, cet homme, il était sur le point de causer la destruction de beaucoup de vies, et il était sur le point de causer beaucoup de souffrances et beaucoup de douleurs pour beaucoup de gens. Et aussi, par cette action, il causerait aussi beaucoup de karma négatif pour lui-même, et que donc, à cause de ce karma négatif, il aurait à endurer la souffrance pendant très 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 longtemps. Et donc, le Bodhisattva a pensé, en fait, il s'est dit, ok, je suis prêt à endurer le résultat négatif de l'action qui va consister à tuer cette personne pour empêcher cette personne de faire elle-même ces choses très négatives et de causer tant de souffrances à tant d'autres gens et aussi de causer tant de souffrances pour lui-même à long terme. Et donc, c'était une action de Bodhisattva. Et bien que le Bodhisattva ait eu à endurer les résultats karmiques de cette action, en fait, au final, elle a accru son action de Bodhisattva, parce que c'était une action très correcte pour un Bodhisattva. Donc ça, c'est cette compréhension-là. Et puis, l'histoire concernant Angulimala. En fait, le Bouddha, les Bouddhas ont enseigné que quiconque a été une personne négative, quiconque a été une personne qui a commis beaucoup d'actions négatives, etc. Si cette personne le souhaite, elle peut se transformer, elle peut se transformer, se changer, elle peut se purifier. Il n'y a aucune action négative de laquelle on devrait se sentir coupable et définitivement perdu et définitivement désespéré. Si on le souhaite, on peut toujours purifier ses actions négatives et on peut toujours se transformer. Ça, c'est l'enseignement principal du Bouddha et c'est ce que l'histoire de Angulimala veut illustrer. C'est-à-dire que bien qu'il ait tué 999 personnes, et bien que ça ne se sont, sont sa négativité soit connue de tous, quand le Bouddha l'a rencontré et lui a parlé, il a pu en voir les causes. Et donc, Angulimala a changé de chemin, il est devenu un moine, il a pratiqué très dur et donc ainsi il a obtenu l'état d'Arhat. Bien sûr, à la fin de sa vie, il a été tué par les gens qui avaient souffert à cause de lui, mais il a eu une mort correcte, on va dire. Et bon, tout ça, c'est vrai pas que pour l'action de tuer, c'est vrai pour toutes sortes d'actions négatives, pour toutes sortes d'états négatifs dans lesquels on a été. En fait, n'importe qui peut être transformé, et c'est ça l'enseignement principal ici. Donc je pense que c'est la compréhension principale d'après le point de vue bouddhiste. N'importe qui est négatif, qui a fait des choses négatives, on devrait essayer par la bonté, par la compassion, par la compréhension, par le dialogue, par l'enseignement, par tous les moyens possibles, et bon, si c'est pas possible dans cette vie, alors voilà, mais au cours des vies successives, il nous faut apprendre à aider ces personnes à se transformer. Se contenter de punir quelqu'un ou de tuer quelqu'un ne résoudrait pas le problème à long terme. Nous devons nous atteler à les transformer et afin d'y arriver, nous devons les éduquer, nous devons changer leur façon de voir, nous devons les aider à modifier leur compréhension pour les aider à éliminer leur façon erronée de penser. En fait, c'est la seule chose qui peut marcher à long terme. C'est la seule chose qui peut permettre à long terme de faire advenir du positif. La question suivante est aussi de John. Pendant des enseignements récents, Sa Sainteté le Karmapa a enseigné de ne pratiquer que pour les vies futures. J'ai beaucoup de projets pour cette vie. Comment fait-on pour ne pratiquer que pour les vies futures? En fait, Rinpoche dit que faire des choses positives en cette vie, c'est travailler pour les vies futures. Comment est-ce que nous faisons pour prendre soin du futur? En fait, l'idée, la compréhension, et ce que dit l'enseignement, c'est que pour prendre soin du futur, ce qui est nécessaire, c'est en fait, on doit voir. On doit donner l'importance on doit donner la priorité aux bénéfices à long terme. En fait, on doit, pour considérer si une chose est bénéfique ou pas, on doit prendre de la hauteur, considérer tous les êtres sensibles, l'humanité. On doit se dire que c'est ça le plus important et pas juste quelques personnes, pas juste moi-même, pas juste les quelques personnes autour de moi. En fait, le bien-être pour toutes les vies à venir dans le futur est plus important que le seul bien-être en cette vie. Donc c'est ça la compréhension principale. Mais maintenant, comment on fait pour prendre soin des vies futures? On ne peut pas avoir d'action dans le futur directement. Et on ne peut non plus rien faire maintenant qui concernerait le passé. Parce que le passé, il n'est plus là. Le passé, il est parti. Et de même, on ne peut pas avoir une action dans le futur parce que le futur n'est pas encore là. Il est à venir. Donc, ce que nous devons faire, c'est d'essayer de faire toutes les choses possibles, positives, pour nous entraîner. Essayer de faire quelque chose qui soit bénéfique, utile aux autres, maintenant. C'est ainsi que nous pouvons travailler pour nos vies futures. Et c'est pourquoi le Karmapa a écrit ce livre intitulé Le futur, c'est maintenant. Donc, question suivante, c'est une petite cherche, quelle est la question suivante? Je crois qu'il en a sauté une en fait. Ah non, il l'a. Une autre question de Max. Dans la médecine tibétaine, on parle des maladies de Nyen. Je pense que ce sont des nouvelles maladies comme le VIH, Ebola, la grippe aviaire, le Covid-19, etc., qui apparaissent dans cette époque du Kali Yuga. J'ai entendu dire que certaines pratiques courroucées comme Guru Drakpo ou Vajrakilaya sont censées aider à stopper ces maladies. Est-ce que vous pourriez ce qu'il en est de ces nyènes, de ces maladies de nyènes, et est-ce que vous pourriez parler de ce que c'est que la discorde des mammots qui est dit être à l'origine de ces maladies? En fait, Rinpoche explique que les maladies de nyènes, qu'on appelle nyènes, ce sont des infections. Ce sont des maladies par infection. Donc, c'est des maladies infectieuses. Et il y en a beaucoup. Ça n'est pas que des maladies nouvelles. Ça a été là, ça a toujours existé, ces maladies infectieuses. Mais il y a eu une prédiction selon laquelle, dans le futur, on serait confronté à beaucoup de maladies de cette sorte. Qui n'étaient pas là avant et pour lesquelles il n'existe aucun traitement, il n'existera aucun traitement connu lorsqu'elles se produiront. Et la cause qui a été prédite, c'est le fait que les gens font des choses négatives, ce genre de choses. Et donc, pour ça, il y a différentes sortes de pratiques et il y a différents mantras qui sont recommandés. Et il est dit que si on fait ces pratiques, ces mantras, alors certaines de ces maladies qui devraient arriver dans le futur pourront être guéries, pourront être soignées. Et donc ce type de mantra et de pratiques sont parfois découverte dans la tradition des Terma, des découvreurs de trésors. Et en ce qui concerne les mammots, Sa Sainteté le Karmapa en a parlé pendant qu'il faisait cette pratique. On a fait une pratique qui s'appelle Mammo Trulkung. Et en fait, c'était pour un peu réparer la discorde des mammots. C'était ça l'objectif de cette pratique. Et Sa Sainteté Karmapa a décrit un peu les mammots comme un peu l'environnement. Bien sûr, il existe différents types de mammots, extérieurs, intérieurs, il y en a de toutes sortes, mais si vous regardez profondément les enseignements, c'est en effet, ça peut se résumer à ça. Puis la question suivante est de Marie. Il est dit que dans nos rêves, si nous arrivons à être conscients que nous sommes en train de rêver, alors, aucune émotion ne pourra nous perturber lorsque le rêve deviendra un cauchemar. Cela me semble raisonnable, mais pouvons-nous vraiment entraîner notre esprit suffisamment pour avoir une pleine conscience pendant que nous dormons? Et comment devrions-nous faire pour nous entraîner? Et Rinpoche dit, bah, ça c'est ce qu'on appelle le yoga du rêve, qui est donc qui fait partie des six yogas de Naropa. Et ça n'est pas une pratique très facile. C'est une pratique qu'il faut apprendre, qu'il faut pratiquer beaucoup pour pouvoir la pratiquer. D'abord, on doit apprendre à être conscient de nos rêves, on doit apprendre à les reconnaître pendant que nous sommes en train de rêver, parce que si nous n'y arrivons pas, alors nous ne pourrons pas pratiquer dans le rêve. Donc, c'est quelque chose à quoi on s'entraîne pendant la journée, et il y a beaucoup d'instructions aussi à ce propos. Une fois qu'on commence à reconnaître le rêve en tant que rêve, alors on peut utiliser le rêve pour pratiquer. Et donc la pratique menée pendant le rêve peut modifier le rêve. On peut utiliser le rêve pour faire beaucoup de choses différentes. Sa sainteté, le Karmapa, récemment, quand il enseignait sur le huitième Karmapa, il a raconté une histoire concernant l'un des Karmapas et d'après laquelle ce Karmapa, il était un si bon pratiquant du yoga du rêve que avant qu'il aille se coucher, en fait, il gardait beaucoup de livres ouverts, une quinzaine, une vingtaine de livres ouverts. Et puis il allait dormir. Et puis le matin, quand il se levait, il avait réussi à lire tous ses livres. Parce que dans le rêve, il avait réussi à s'émaner en beaucoup de personnes. Et chacune de ces émanations étudiait un des livres. Et du coup, il les avait tous étudiés. Il y a beaucoup de choses de cette sorte. Donc, quand vous êtes très fort en yoga du rêve, vous pouvez faire ce genre de choses, mais ça n'est pas une pratique facile. Et donc, je pense qu'avec ça, on arrive à la fin des questions écrites. Est-ce que maintenant il y a d'autres questions? On a une question de Rinchen, je crois. Je ne peux pas voir Rinchen pour l'instant, dit Rinpoche. Je suis là, dit Rinpoche. Comment je fais, dit Rinpoche? Voilà, dans la galerie, d'accord. Est-ce que vous pouvez me voir? Oui, maintenant je peux. Bon, bonjour. Je suis tellement habituée à mettre les choses sur l'écran parce que j'utilisais toujours un iPad et maintenant j'ai un portable et donc je faisais encore sur mon écran comme avant en fait. Ça fait plaisir de vous voir. Et joyeuse Pâques, et la même pour vous, dit Rinpoche. Est-ce que vous êtes toujours à Siliguri? Non, je suis à Gangtok maintenant. En fait, vous avez déjà un peu répondu à ma question avec celle de John, mais peut-être je peux juste faire un commentaire rapide. Je voulais vous poser des questions sur des sutras qui ont l'air de se contredire l'un l'autre à première vue. Mais la dernière fois, vous avez dit que personne ne savait ce qui arriverait après la mort, mais j'ai lu un enseignement par un moine qui dit que si on prend la vie d'un être vivant, on ira en enfer qu'on n'en décale pas et qu'il n'y aura pas de purification de ça. Mais Shantideva, dans le chapitre sur la patience, dit que des kalpas de patience peuvent être détruits par un instant de colère. Donc ça, c'est une vue, une compréhension. Mais dans un autre sutra, le Bouddha semble dire autre chose. Dans le futur, s'il y a des gens qui ont un karma qui les mène en enfer, et s'ils peuvent se souvenir ne serait-ce que du nom de d'un Bouddha ou d'un Bodhisattva, ou s'ils se souviennent ne serait-ce qu'un passage du Mahayana, alors ça libérera les êtres de cette souffrance. Donc il y a une vue qui semble très sévère, on va dire, et l'autre semble très indulgente, on va dire. Donc, parce qu'on dit qu'il suffit de se souvenir d'une seule phrase d'un enseignement bouddhiste et ça suffit en quelque sorte. Et Rinpoche dit, il faut voir le tout ensemble. En fait, d'un côté, si vous faites quelque chose de mal, ça a un effet négatif très fort. Mais si vous faites quelque chose de correct ou si vous le purifiez, ça sera possible de le purifier. Donc c'est un peu ça le message. Et tout ça, il faut le remettre en contexte parce que sinon, si vous ne prenez que une chose et que vous en faites la vérité, parce que dans le même sutra qui dit que si vous tuez quelqu'un, alors vous irez en enfer continuellement, vous trouverez dans le même sutra des enseignements qui dit que si vous faites cette bonne chose, alors vous serez libéré de tout. Donc, en fait, il faut bien comprendre que tout ça doit être mis bout à bout et mis ensemble. Donc, ce chapitre dans le Bodhicharya Avatara, il y a beaucoup de commentaires, il y a beaucoup de débats là-dessus. Parce que dans la plupart des enseignements sur le Mahayana, tout particulièrement ceux de l'université de Nalanda, même les enseignements du Bouddha sont examinés. Il y a le sens provisoire et le sens définitif. Donc Tangdön, en fait, Tangdön, c'est ce qui mène. C'est le sens qui mène. Et Nyeden, c'est le sens définitif. Donc, le sens provisoire, ça veut dire que le Bouddha l'a dit, mais dans un but particulier, pour une personne en particulier à un moment donné. Donc, ça veut dire que cet enseignement, il est vrai, mais dans un certain contexte, il n'est pas ultime. Et il y a beaucoup d'enseignements de ce type. Par exemple, des enseignements qui disent, si vous dites ce mantra une seule fois, tous vos karmas négatifs pendant des kalpas vont être purifiés. C'est la même chose que de dire, si vous faites un instant de colère, vous allez détruire tout votre karma positif. En fait, tout ça, c'est similaire. C'est-à-dire que, en un sens, c'est vrai. Parce que voilà, si vous êtes vraiment en colère et si vous êtes pris par la haine, alors il est tout à fait possible que ça vous fasse faire des choses qui détruisent vos actes positifs pendant plein de vies. Ça, c'est possible si vous êtes complètement sous le pouvoir de la haine. Ça peut vous mener à tuer beaucoup de gens, à détruire, à vous détruire vous-même, etc. Donc, il faut être extrêmement prudent concernant la gestion de votre esprit, de votre colère, de vos émotions. C'est la compréhension principale. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit comprendre à un niveau global. Merci Rinpoche, dit Rinchen. Rinpoche dit, je pense qu'en un sens, c'est vrai, moi je vois les choses ainsi, dit Rinpoche, on peut créer l'enfer pour nous-mêmes. J'ai pas trop entendu, la liaison était mauvaise. On peut créer l'enfer pour nous et aussi pour les gens autour de nous, mais en même temps, si on agit avec bonté, compassion et générosité, on peut aussi créer un paradis pour nous-mêmes et les gens autour de nous. Donc, l'enfer et le paradis, ils sont pas si loin que ça de nous, ils sont pas hors de portée. En fait, c'est quelque chose qui est tout à fait dans notre portée, qui est tout à fait atteignable et on peut créer tant l'un que l'autre. Donc, si on comprend cela et qu'on essaye de travailler avec cette compréhension, alors on pourra comprendre les choses clairement et on n'aura pas forcément non plus besoin de prendre les choses dans un sens trop littéral. Merci Rinpoche, dit Rinchen. Qui est la personne suivante? Marilyn. Bonjour Rinpoche. S'il vous plaît, vivez longtemps. D'accord, si je peux. Je récite votre prière de longue vie. Et j'ai une question. Le karma. Donc, le Karmapa a parlé des enseignements de Mixue Dorje sur Rangtong et Shentong, mais je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Si c'est la vacuité de la vacuité, je peux à peu près comprendre, mais. Pour ce qui est de l'autre, je ne suis pas trop sûr. Et je pense que peut-être vous pouvez l'expliquer. En un sens, dire Rinpoché, c'est très compliqué. En fait, c'est un peu deux façons différentes de voir les mêmes choses, les choses. Une façon de voir les choses, c'est de dire que dans le Rangtong, le self, le moi, ça veut pas dire moi, ça veut dire par soi-même. Donc, en Rangtong, la vue, c'est que si par exemple vous regardez n'importe quoi, si vous regardez cet objet, par exemple cette maison, ce monde, cette personne, cet esprit, quelle que soit la chose que vous allez considérer, vous l'analysez, et quand vous l'analysez, vous ne trouvez rien qui existe indépendamment et qui existe en soi. Vous ne pouvez rien trouver qui existe vraiment en soi. Donc c'est interdépendant, c'est impermanent, c'est changeant. Et donc c'est vide par nature. Donc tout est vide par nature. Ça c'est la compréhension de Rangtong. Dans la vision Shentong, on ne se place pas en train de regarder les choses comme moi analysant les choses. En fait, ce qu'on regarde, c'est l'expérience. Par exemple, le Bouddha, ou n'importe qui ayant l'expérience de l'éveil, en fait, cette expérience de l'éveil que fait cette personne, en fait, elle est vide. En fait, cette expérience que fait la personne de l'éveil, elle est totalement joyeuse, elle est quasiment éternelle. Et on ne peut pas dire que c'est vide ou pas vide, en fait, c'est au-delà de ces concepts-là et c'est au-delà de tout concept, en fait. Donc, c'est complètement libre, c'est éveillé. Oui, c'est éveillé, c'est conscient, et donc il n'y a pas même la notion de vacuité. Donc c'est vide de tout concept, et c'est même vide de soi-même, parce que ça n'est qu'une expérience. Ça, c'est la vue Shantung. Donc il n'y a rien qui soit vide d'existence en soi. Bien sûr, si on regarde du point de vue Rangtong, c'est vide. Mais si on regarde l'expérience elle-même, il n'y a pas. Enfin, les mots vacuité ou non-vacuité ne sont pas pertinents. Mais il peut y avoir tellement de débats là-dessus. Mais en fait, ça parle de la même chose. C'est simplement que ça en parle sous des angles différents, et donc c'est peut-être pas la peine de trop en discuter, parce que finalement on parle de la même chose. Tout est vide aussi, dit Rinpoche, de nos malentendus, de nos erreurs de compréhension. Donc nos concepts sont autre chose que notre vrai soi. Ouais, Marine Poitier dit, ben dès qu'on dit nos concepts, hein, en fait, il n'y a pas de nous non plus. Ça aussi, on est aussi vide de ça, de ce nous. Quand on expérimente une très forte émotion, quand on expérimente une très forte colère, là, il n'y a pas de différence, dit Rinpoche. En fait, c'est juste deux façons d'expliquer les mêmes choses. Les émotions, c'est quelque chose avec quoi nous devons travailler, quelle que soit la philosophie que nous suivons. C'est autre chose. Je réfléchis peut-être trop, dit la personne. En tout cas, merci, dit la personne. Bonjour Bernard. Comment allez-vous? Demande Rinpoche. Ça va bien, merci. Meilleure salutation de Berlin. Je suis un peu inquiet parce que c'est la première fois que j'utilise Zoom. C'est pas si difficile quand on a l'habitude, dit Rinpoche. Je serais intéressé par d'autres discussions sur Hong Tong et Shentong, mais j'ai une autre question maintenant, parce que c'est intéressant pour moi aussi. Je prépare un petit enseignement sur les trois incommensurables. Les trois quoi? Les trois incommensurables. Les quatre incommensurables. Se rattrape la personne. Les trois Dharma Mudra. D'accord, dit Rinpoche. Donc, le non-soi, le nirvana, d'accord, dit Rinpoche. Donc, le caractère éphémère des phénomènes. Le premier, c'est le non, être non-objectif. Non-objectivité. En sanskrit, c'est anitya. Ma question, c'est quand quelque chose n'a pas d'espace, pas de temps, parce que c'est au présent, est-ce que le phénomène existe dans le non-temps, en quelque sorte. Parce que si il n'y a pas d'espace, du début à la fin, ça se produit en dehors du temps, en quelque sorte. Donc ça vient et ça s'en va, et ça s'effondre. En fait, le début et la fin du phénomène s'effondrent en un instant. Est-ce que c'est correct? Je pense, dit Rinpoche, que tout est impermanent. Ça, c'est Anitya, c'est la première chose. Donc, tout est impermanent. Et c'est impermanent parce que tout ce qui existe, tout ce qui est présent, est constitué de tellement de causes et de conditions. Ça n'est pas juste une seule chose. Et il y a tellement de causes et conditions, et chacune d'elles est elle-même faite de causes, de beaucoup de causes et de conditions. Et donc il n'y a rien qui soit totalement une seule chose. Et à cause du fait que tout est si multiple, à cause du fait que tout est si interdépendant, forcément, ça ne peut que changer, ça ne peut que changer sans cesse, et chacune des parties de ces choses change. Donc, il n'y a rien qui ne demeure identique à soi-même, même pour un instant. Ça, c'est Anitya. Et à cause du fait que tout change tout le temps, à cause du fait que tout change sans cesse, en fait, il n'y a rien qui existe totalement en soi, parce que tout change toujours sans cesse. Donc, si vous parlez du temps, le temps est une chose relative. Il n'y a rien qui s'appelle le temps. C'est nous qui percevons les choses au travers du temps. On introduit le moment maintenant, qui est le présent. Et le moment présent, c'est quelque chose de très relatif, parce que ce moment présent, avant ça, c'était du passé, et maintenant, et après ça, c'est le futur. Mais Si vous essayez de mettre le doigt dessus sur ce moment présent, on ne pourrait rien trouver parce que ça change tout le temps. Et donc, il n'y a rien qu'on puisse identifier et saisir comme étant le présent. Et donc, le temps lui-même est un terme relatif, n'existe pas vraiment là. Le passé, par définition, n'est jamais là, c'est toujours passé. De même, le futur, par définition, ça n'est jamais là parce qu'il est toujours à venir, il n'est pas encore arrivé parce que s'il était déjà arrivé, ce serait plus le futur, donc il n'y a pas de futur. Et le présent, c'est pareil, si on regarde de façon très minutieuse, à chaque instant, l'instant il vient de passer et donc il n'y a pas non plus de présent. Donc, si vous regardez les choses très profondément, en fait, tout est comme ça. Tout est comme ça, pas seulement le passé et le présent, mais aussi vous et moi, le bien et le mal, ce qui est correct et ce qui ne l'est pas. Donc tout est un peu comme cela. Donc c'est comme ça que les choses, c'est ainsi que les choses existent, mais malgré tout, elles apparaissent. Tout apparaît comme une illusion, comme un rêve. Et en fait, il n'y a pas du tout besoin pour que ces choses apparaissent qu'il y ait vraiment quelque chose de réellement existant. Parce que la plupart d'entre nous, la plupart des gens pensent que si quelque chose apparaît, si quelque chose se produit, alors pour que ce soit possible, il faut bien que quelque chose existe vraiment, en fait. Mais de ce point de vue, en fait, il ne peut pas y avoir quelque chose qui existerait vraiment. Parce que si quelque chose existait vraiment, ça figerait un peu les choses, comment elles sont, comment elles changent. Si quelque chose existait de façon vraiment solide, eh ben cette chose qui existerait de façon solide, elle ne pourrait pas changer, justement par le fait qu'elle existe en elle-même et par elle-même. Donc si une chose existait en elle-même et par elle-même, alors il faudrait qu'elle soit beaucoup plus concrète et indépendante, et alors elle ne pourrait être affectée par rien, et elle ne pourrait rien affecter, et donc elle ne pourrait pas changer. Et donc le fait que tout se produise, le fait que tout change, le fait que tout bourgeonne, se développe, croisse, meurt, c'est en fait la preuve que rien n'existe de façon réelle, mais que tout apparaît de manière interdépendante. Donc, c'est ainsi que tout existe. Mais nous, on n'arrive pas à le voir, et donc on pense que nous-mêmes, les autres, existent totalement indépendamment. Et nous sommes très attaché à cela, ou alors on développe de l'aversion par rapport à tout ça, sur cette base, et alors on a beaucoup de problèmes à cause de ça, parce que les choses auxquelles on est attaché s'en vont, se modifient, et alors on est complètement dévasté. Et les choses pour lesquelles on a de l'aversion, elles peuvent arriver, elles peuvent s'accroître, et donc on a de nouveau beaucoup de souffrances, de douleurs, de problèmes. Et ça, c'est à cause de notre façon de réagir à toute cette situation. Alors que si on comprenait comment les choses apparaissent en réalité, ça pourrait changer un peu notre façon de voir les choses, notre façon d'y réagir, et on arriverait à avoir beaucoup d'amour, on arriverait à avoir beaucoup de compassion, on arriverait à s'entraider beaucoup les uns les autres, mais on n'aurait pas besoin de réagir avec autant d'attachement et d'aversion, mais on pourrait laisser les choses arriver comme elles arrivent, se produire comme elles arrivent. Merci beaucoup, c'est très constructif. Et une autre question en rapport avec ça, c'est est-ce que cette vue cette compréhension du monde, de la réalité conventionnelle, est-ce que c'est la seule différence avec les autres philosophies indiennes? Il y a beaucoup de différences, dit Rinpoche. Il y a beaucoup de façons différentes de formuler les choses, même parmi les érudits bouddhistes. Donc, il y a ce fameux proverbe que s'il y a deux érudits sont d'accord, c'est qu'il y en a un qui n'est pas un érudit, en fait. Donc, il y a beaucoup de différences qu'on peut expliquer, d'où les shantung et les rantung et encore plein d'autres choses. Et même, il y a beaucoup de philosophes rantung différents, beaucoup de philosophes shantung différents, et ils débattent, et même à l'intérieur du bouddhisme, il y a tous ces débats. Donc, on ne pourrait même pas trouver deux philosophes qui seraient tout à fait d'accord sur tout. Il cite Trungpa Rinpoche, mais j'ai pas compris la citation. J'ai pas compris la citation. Je pense, dit la personne, que ça me donne beaucoup de clarté. Merci beaucoup. Et Rinpoche dit aussi merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Plus de questions. Plus de questions. Très bien, dit Rinpoche. Donc, je pense que nous allons pouvoir nous arrêter là. Merci beaucoup. Et le meilleur à chacun d'entre vous. Un très bon dimanche de Pâques à chacun. Et j'espère que vous avez reçu de très agréables œufs de Pâques. Je suis bien désolé de ne pas avoir pu en recevoir moi-même cette année, mais j'espère pouvoir en manger et me rattraper en mangeant beaucoup l'an prochain. Merci beaucoup et meilleurs souhaits à chacun.